السلام عليكم
كتاب بسم الله الرحمن الرحيم
راديو فوت انترناسيونال
من قطر
اني غاسني
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI à la fin de cette dernière journée de huitième de finale à la Coupe du Monde. Maroc-Portugal, dernier quart de finale donc défini ce soir. Les Marocains ont éliminé les Espagnols au terme d'une séance de tir au but parfaitement contrôlé, au contraire des joueurs de la Roja qui ont tout raté. Les Lions de l'Atlas sont fêtés partout ce soir et particulièrement sur le continent africain. Le Portugal, lui, a écrasé la Suisse, un score fleuve pour se rassurer avant de retrouver le Maroc samedi après-midi. Les Brésiliens ont dansé et leur joie a été critiquée, jugée trop exubérante. Les joueurs ne peuvent-ils donc montrer leur satisfaction, leur joie d'inscrire un but? C'est une question qu'on se posera dans Radio Foot ce soir. Et puis Samuel Eto'o perd ses nerfs, puis s'excuse. Le président de la FECAFOOT a été filmé en train de frapper un homme à terre autour d'un stade de la Coupe du Monde, apparemment provoqué par un Algérien insatisfait de l'élimination des Fenecs, ce qui n'excuse aucun geste de violence. Et cela, nous en parlerons aussi avec notamment nos invités, nos visiteurs du soir. Bonsoir Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Merci d'être là avec nous, avec aussi David Lortolari. Bonsoir David.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Déçu par la Suisse, Annie, je sais qu'on va en parler.
Oh, on n'en parlera peut-être pas longtemps, hein, finalement.
Hein, parce voulez, que il y a des arguments.
Ils sortent par la petite porte, ces petits Suisses aujourd'hui. Bonsoir Xavier Barré.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Merci donc d'être là. Et on va aussi aller du côté de Doha, retrouver plusieurs interlocuteurs.
Oui, Annie, si vous me permettez, Naïm, un bonjour à passer à Alassane Barry, qui est un fidèle auditeur de l'émission, avec qui j'avais parié sur Twitter. Donc lui avait parié que le Maroc se qualifierait, moi l'Espagne. Donc bravo à lui, il a gagné et bonjour. Donc il est à l'Abbé en Guinée, il nous écoute très souvent, il me parle sur Twitter, il vous suit. Bon. Donc bonjour Alassane, bravo
et,
à toi.
Eh bien, un grand salut à cet auditeur de Guinée. David Finzel est là fidèlement pour m'aider à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Y marca Marruecos clasificada. Gol.
La Palencia, la Palencia, el Maroc ha quedado final de la Coupe du Monde.
Bravo, bravo, felicidades a los marroquíes, felicidades Marruecos, hemos ganado. El Mejor Mundial de España, estamos en el cuarto final del Mundial de Qatar. En el Mundial de Doré, Romania y Mundial Qatar.
Une panenka suffit à répandre la joie dans toutes les villes du Maroc et ailleurs, dans d'autres villes africaines et puis sur les Champs-Élysées, à Paris, à Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne et ailleurs, partout où se trouve cette diaspora marocaine. De vrais lions de l'Atlas qui se sont qualifiés cet après-midi ou en fin d'après-midi et pour la première fois de leur histoire en quart de finale d'un mondial. Les Marocains ont éliminé les Espagnols au terme d'un match sur lequel on va revenir, plutôt héroïque, surtout avec beaucoup de rigueur défensive. Et Walid Regragui, leur sélectionneur, était ravi.
C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. Je crois que depuis 2010, personne n'avait atteint les quarts de finale. On avait dit qu'on était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté. Vous avez vu aujourd'hui sur le plan tactique, je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols. On a beaucoup couru, ils nous ont beaucoup fait courir. J'avais prévenu qu'ils allaient attendre la faille. Ils ont des situations, on en a aussi. Mais l'important, c'était de montrer un beau visage, de donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. Et puis à la fin, bah, c'est la séance des pénaltys. Il faut un peu de chance. On ne va pas s'enflammer. Mais on savait qu'on avait un grand gardien, un des meilleurs au monde, qui pouvait nous ramener en quart de finale. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs, je suis très heureux pour eux parce qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup. Beaucoup de joueurs jouent blessés sans qu'on donne les noms. Mais je peux vous dire qu'ils sont sur les rotules. Mais pour le pays, ils sont prêts à mourir. Maintenant, il faut bien récupérer. On ne sait pas contre qui on va jouer. Mais on est ambitieux, comme je l'ai dit. Et on va encore tout donner.
Alors, mourir, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont donné beaucoup sur le terrain aujourd'hui. Celui qui a failli voir sa voix mourir pendant le match, il s'appelle Hugo Moissonnier. Et je pense qu'il va murmurer ce soir dans notre micro. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous. Mais non, moi je suis comme Romain Saïs, même quand je me blesse ou je me claque, un petit pansement et ça va. Un petit pchit pour la gorge et voyez la voix et je suis prêt à me battre pour l'antenne de RFI.
Alors Hugo, vous avez suivi ce match, vous suivez surtout les Lions de l'Atlas hein, depuis le début de l'épopée du côté du Qatar. Ce soir, c'était dans le stade d'Al Rayyan. On a vu un public acquis aux Marocains. C'est peut-être ça qui les a poussés vers la victoire, eux qui ont semblé, effectivement, en fin de partie, un peu érodés.
Oui, alors effectivement, le rôle des supporters qui se qualifient souvent eux-mêmes, hein, en tout cas ceux que j'ai rencontrés d'hommes du match, le deuxième homme c'est l'homme du match, le rôle des supporters depuis le début du tournoi, il est fantastique et il est, on va dire, dans la droite lignée de cette ferveur arabe hein, qu'on avait constatée en début de mondial, parce que c'est la première Coupe du Monde organisée dans un pays arabe, donc il y avait les supporters qui supportaient leur pays, mais qui supportaient aussi les autres pays arabes engagés, il y avait même des fois des supporters de pays qui n'étaient pas engagés dans cette Coupe du Monde, qui supportaient et qui faisaient la fête, par exemple, dans le souk de Doha, comme les Algériens. Donc là, il y a quelque chose qui porte le Maroc et la ferveur des supporters, elle est incroyable. Mais c'est pas simplement ce 12e homme qui a porté les Marocains et les a poussés à se dépasser. Il y a quelque chose dans cette équipe, une âme. Le mot est souvent galvaudé, mais là, elle est vraiment palpable, cette âme. Quand vous voyez, encore une fois, le capitaine Romain Saïs s'être blessé, mais rester, quoi qu'il arrive, coûte que coûte sur le terrain. Et effectivement, Hakimi ou Mazraoui, par exemple, ce sont des joueurs. Et Hakimi, Dieu sait que c'est un héros encore aujourd'hui. Des joueurs qui sont à un moment donné blessés dans les matchs de la phase de poule et ils sont quand même là. Et vous les voyez encore courir à la fin du match. Ziyech, il était éclaté en fin de deuxième période et il était quand même là encore à aller au bout du bout de ses efforts. Bon, il y a une âme, il y a quelque chose qui transcende cette équipe et c'est fantastique.
Oui, vous nous en avez souvent rendu compte hein, sur l'antenne de RFI, on a bien senti ce supplément d'âme qu'avaient les Marocains dans cette épopée en Coupe du Monde. Une victoire très attendue, Naïm Moniol, alors vous l'attendiez pas en l'occurrence, vous nous l'avez avoué, mais c'est la 4e équipe africaine seulement à atteindre ce stade après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana.
Ouais, donc pour vous dire à quel point la Confédération africaine n'est pas coutumière du fait, même si elle fournit des joueurs magnifiques à tous les clubs depuis des décennies. C'est une performance historique, c'est un exploit, mais qui est amplement mérité, parce que le Maroc a mérité sa victoire, n'en déplaise à Xavier Barré, avec une équipe qui a été forte dans tous les compartiments du jeu, et c'est surtout une équipe qui a tué cette image qu'on a du football espagnol, qui est que la possession est ce qu'il y a de mieux. Ça a été une horreur pendant 2 heures, ce qu'ont fait les Espagnols. Moi, les gens qui font 1800 passes, mais jamais une frappe, ça me sort par les yeux. Et ce qu'a fait le Maroc a été très bien. J'ai vu beaucoup d'actions en première mi-temps. Mazraoui, Aguerd, Ziyech. Ça a été plus dur en deuxième parce qu'ils étaient fatigués. Il y a un peu moins de qualité sur le banc côté marocain que côté espagnol. Donc, ils ont lutté. Ils ont réussi à aller jusqu'au prolong et au tir au but. Bah, la qualité technique fait la différence puisque quand on est un pays de football mais qu'on rate 3 pénaltys sur 3, c'est qu'à mon avis, il y a un raté. Donc, bravo au Maroc qui écrit une page de l'histoire. Marocain, maghrébin, africain. Ça aussi, il faut le dire, ça porte haut les couleurs de l'Afrique et du Maghreb parce que des pays comme la Tunisie et l'Algérie, en voyant le voisin arriver jusque-là, bah, ça donne envie d'y aller et de faire aussi bien. Donc bravo ce que fait le Maroc. C'est un exploit et on espère que ça va continuer.
Bah justement, on va en parler avec un Marocain parce que si dominer n'est pas gagné et surtout dominer la possession n'est pas gagné, cette victoire était très attendue du côté du Maroc, espérée surtout depuis longtemps, notamment en 2018 en Russie alors que le Maroc était parti avec Hervé Renard à sa tête. Hicham El-Khelaifi, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors bonsoir Annie, bonsoir à tous les auditeurs d'RFI.
Ouais, vous êtes journaliste et responsable directeur de la radio Radio Mars à Casablanca. Qu'avez-vous ressenti après cette panenka d'Hakimi qui signait la victoire et la qualification surtout du Maroc?
Bah, de la joie comme tout le monde, mais une immense joie. Inimaginable, parce que quand même la dernière fois que le Maroc s'est qualifié à passer les tours, c'était il y a 36 ans, en 1986, à l'époque j'étais jeune, mais on l'attendait vraiment, Mais attention, hein, ce n'est pas un exploit, c'est, je le dis d'une manière très modeste, parce que en 2018, le Maroc est sorti, il y a eu, on ne va pas revenir sur ce qui s'était passé, des buts refusés, des coups francs, mais il y a un travail qui a été fait. D'ailleurs, à la radio, que ce soit, je peux vous assurer que le président de la Fédération royale marocaine nous a dit dans son bureau que le Maroc ira jusqu'en quart de, on va en Russie pour arriver en quart de finale. Lino qui est un des plus grands doyens des journalistes marocains sportifs, l'a annoncé aussi à Radio Maroc. Oui. Lino Bako que vous connaissez, l'a annoncé. Il a dit le Maroc ira jusqu'en quart de finale. Mais attention.
Au Qatar, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Maroc travaille pour ça depuis des années. On connaît, il y a eu l'Académie Mohamed VI qui a été créée. Et c'est vrai qu'il y a un travail, même s'il y a beaucoup de binationaux dans l'équipe.
Bien sûr, mais oui, mais il y a quand même 8 à 9 joueurs qui en sont formés au Maroc maintenant. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque, on y arrive doucement. Ounahi, le numéro 8, par exemple, il sort de cette académie. Le numéro 8 que, je ne sais pas, d'ailleurs, Luis Enrique, à la fin du match, il a dit, mais il sort où ce bambin? Ils l'ont sorti d'où? Tellement il a déséquilibré son milieu de terrain. Et non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'académie. Vous savez qu'il y a l'académie, maintenant il y a le centre. Il y a un centre d'entraînement qui est le centre Mohamed VI justement, mais qui est unique au monde. C'est un des meilleurs centres au monde. Et là, je vous invite vraiment à venir le voir. Où maintenant, où l'équipe nationale fait... toutes les équipes nationales du Maroc font leur regroupement, leur préparation. Vraiment, c'est une pure merveille. Et aussi, il y a un travail qui a été fait au niveau des clubs. Maintenant, pratiquement toutes les Coupes d'Africaines ces 5 dernières années, que ce soit la Champions League ou la Coupe de la CAF, le Maroc, ou c'est pas l'OAC, c'est Berkane, c'est le Raja, ils sont toujours là.
Oui, en finale surtout l'OAC, et parfois vainqueur. Voilà. Mmh, exactement.
Voilà.
C'est vrai que le championnat...
Et le championnat du Maroc... Le championnat du Maroc est le meilleur championnat d'Afrique. Il faut voir tout le travail d'infrastructure. Nous, on le suit de très, très près. Et puis, ce qui manquait vraiment, c'était un chef d'orchestre. Et nous, on l'avait annoncé au mois de mars. Hein. J'ai eu pas mal d'interviews. Je l'avais annoncé à nos confrères de Canal+. Et avant qu'il soit, ils disaient que c'était Regragui, c'était vraiment l'entraîneur qu'il faut pour le Maroc, quelqu'un qui joue la jonction entre la diaspora des joueurs marocains. Il a entraîné au Maroc, ancien joueur de l'équipe nationale. En fait, il manquait, parce que le talent, nous en avons toujours eu. Lui, il savait vraiment ce qui manquait à cette équipe nationale, notamment, vous avez fait allusion, l'âme et l'esprit et la communion. Mmh. D'ailleurs, il ne faut pas non plus, hein, les Espagnols restent une très grosse équipe, ils étaient plus forts d'un point de vue technique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la rigueur tactique, il y a l'esprit. Et c'est comme ça que le Maroc a fait la différence.
Oui, en tout cas, sur les tirs au but, ils n'ont pas été tout à fait au rendez-vous, les Espagnols.
Oui, je suis heureux.
Oui, ça, ouais. C'est sûr.
Mais on le savait. Parce que Bounou, oui. Maintenant, allez, je vous fais la confidence, c'est mon filleul. Mm-hmm. C'est moi qui l'ai découvert à 14 ans, alors que j'étais responsable de l'équipe du WAC. On avait fait une académie de gardien de but et je l'ai suivi. Je suis son parrain. Et on savait, d'ailleurs vers la fin, on voulait emmener cette équipe vers les pénaux. Tous les joueurs ont gagné du temps vers la fin parce que ils ont une meilleure qualité de remplaçants. Tous les joueurs sont sur les retours. C'est pour ça que je rejoins amplement l'analyse de mon confrère qui m'a précédé.
Mm-hmm. Oui, Hugo Moissonnier. Xavier Barret, Oui, vous voulez intervenir?
Moi, je partage tout à fait cette analyse sur la qualité du football marocain, le championnat, le Botola, qui est un championnat de très bon niveau, les clubs qui brillent sur la scène continentale africaine, le CHAN aussi, les deux derniers champions d'Afrique, vainqueurs du CHAN, c'est le Maroc. Mais alors, dites-moi pourquoi il n'y a que 12 joueurs nés au Maroc dans ces 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde. Moi, je ne comprends pas que le Maroc, malgré la qualité de ses infrastructures et la richesse de sa population, ait besoin d'aller récupérer des joueurs aux Pays-Bas, en Belgique ou en France.
Oui, vous avez raison. Nous n'avons commencé que... C'est ce qui s'est passé, au fait. On est en train de vivre ce qu'a vécu la France avec, dans les années 70-72, quand ils sont recentrés et que le fruit n'est venu qu'en 1982, en Bologne, quand vous avez créé la formation. C'est exactement la même histoire, sauf qu'on a 20 ans de retard.
Il n'y a pas eu un coup d'arrêt aussi parce qu'il y avait eu le centre d'Ifrane qui avait été créé à l'époque. Moi, Henri Michel, notamment, quand il avait été sélectionneur, il avait beaucoup travaillé avec la formation là-bas, sur place, au Maroc. Et il y avait très peu, d'ailleurs, de joueurs venus d'Europe à l'époque.
C'était pas un centre. C'était juste un centre, parce qu'on allait à Ifrane, parce que c'est un centre d'altitude. Mais c'était pas un centre réellement centre de d'entraînement, quoi, où il y a des... Mais je vous invite vraiment, si vous voulez faire une visite, je vous l'organise, venez voir ce qu'est c'est le meilleur centre au monde. Je pèse bien mon mot, il fait partie des meilleurs centres au monde maintenant d'entraînement. Venez le voir. Et vous allez comprendre ce que c'est maintenant le centre Mohamed VI. Il y a l'académie, c'est une chose, où on forme les joueurs, mais le centre d'entraînement de toutes les équipes nationales, c'est un vrai bijou. Quand Vahid, je me rappelle, est venu, il a explicitement dit qu'il n'avait jamais vu ça, même pas au Japon. Quand Sadio Mané, quand il est venu récupérer son ballon d'or africain, il s'est entraîné dedans, il m'a dit « mais attendez là ». Vous n'avez aucune raison pour ne pas devenir champion d'Afrique avec un tel centre. Vous voyez, on a tellement investi dans les infrastructures et la formation. Maintenant, voilà, donc tout ce qu'avait fait la France dans les années 70, 72, 73, je pense que c'est Georges Bologne qui avait commencé ça.
Exactement.
Ben voilà. C'est la même chose, c'est la même.
Il y a Hugo Moissonnier qui voudrait intervenir. Hugo ?
Oui, Annie.
Vous vouliez intervenir de nouveau sur le Maroc ?
Oui, bon, d'autre chose à dire sur le centre technique de l'équipe nationale que j'ai vu effectivement lors des CAF Awards, ce qui est pas si accessible que ça aux journalistes, mais c'est pas très grave dans mes souvenirs. Mais c'est surtout que là on a vécu un moment historique qui dépasse, je pense, un peu les considérations sur les centres d'entraînement, et on a vécu ce que la Coupe du Monde peut offrir de plus incroyable. On a vécu une joie absolument pure qui m'a même fait perdre un petit peu mon sens du factuel, puisque j'avais oublié le Ghana comme quart de finaliste africain de la Coupe du Monde. J'en excuse auprès de nos auditeurs. J'ai dit que le Maroc était le premier depuis le Sénégal, mais il y a bien eu le Ghana. Mais globalement, ça fait 4 en tout. Donc c'est vrai qu'on a, oui, 2010. Et c'est vrai qu'on a subi, on a vécu quelque chose d'absolument incroyable. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Le stade d'Education City de Doha restera pour l'éternité un stade qui aura marqué le football africain. Et on a senti quelque chose d'absolument incroyable, une émotion absolument incroyable s'emparer de cette enceinte. C'est vraiment le plus beau moment, je pense, que j'ai vécu dans un stade de football, et je partage ça avec les dizaines de milliers de personnes qui étaient là, et je pense avec tous les Marocains qui étaient devant leur télé. Voilà, avant de se disputer sur la qualité des installations de tel ou tel terrain d'entraînement, on peut simplement revenir sur cette qualité d'émotion qui a été celle de tous les amoureux du football aujourd'hui.
Mais Hicham était aussi dans le stade, hein, Hicham Hellefi. Ouais. J'aurais une dernière question. Hicham, comment vous voyez le prochain match pour cette équipe du Maroc face au Portugal, alors, puisqu'on le sait maintenant, un Portugal en démonstration ce soir face à la Suisse?
Oui, ben, ils sont très forts maintenant. On a joué contre la Belgique, contre la Croatie, contre l'Espagne. On a joué avec nos propres moyens.
On n'avait peur de personne.
On respecte. On n'a pas peur, mais on respecte. On respecte l'adversaire.
Et on ne va pas se découvrir, on va jouer avec nos lignes serrées. On a une excellente défense, on a un excellent gardien, un milieu de terrain. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faudra jouer. On connaît très bien ce qui est très bien aussi, c'est qu'on connaît nos adversaires. Nos adversaires ne nous connaissent pas, ils nous découvrent.
Bon, bah écoutez, on continuera à suivre l'aventure du Maroc à cette Coupe du Monde.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été en direct dans Radio Foot International. Et merci Hugo, on vous retrouvera pour continuer aussi à nous parler des Marocains et de cette épopée que vit le Maroc actuellement en terre qatarienne. Merci beaucoup.
Merci.
Et soignez votre voix.
Oui, pas de problème. Merci,
merci Hugo. Naïm, vous vouliez intervenir encore une fois sur le Maroc ?
Oui, parce que bon, j'aurais voulu avoir l'avis d'Hicham. C'est vrai que souvent, quand on parle des pays maghrébins et africains en général, on pointe souvent leur qualité de footballeur, leur numéro 10, leur technique. Ce qui frappe surtout avec ce Maroc en 2022, c'est la qualité de sa défense, de son socle défensif. Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but dans la compétition et c'est un but contre son camp, en ayant joué la Croatie, la Belgique et l'Espagne, excusez-moi du peu. Donc voilà, j'aimerais qu'on parle beaucoup d'Hakimi parce qu'il est très en vue avec le Paris Saint-Germain, mais la charnière centrale Saïss Aguerd, qui évolue à Wolverhampton et à West Ham, est probablement la meilleure charnière centrale de cette compétition.
Saïss, il a Beşiktaş maintenant.
Bon bref, c'est probablement la meilleure charnière centrale de cette compétition. Compte tenu du fait qu'elle a été très sollicitée par rapport à d'autres, et ce qu'elle montre, c'est vraiment de très haut niveau. Et on dit souvent, dans ces compétitions-là, c'est les meilleures défenses qui gagnent. C'est les équipes les plus solides, pas forcément celles qui jouent, mais les plus solides. Je pense que le Maroc a aussi cet atout-là dans sa poche, et c'est suffisamment rare pour être souligné dans un pays africain.
Et puis on a vu des joueurs créatifs comme Sofiane Boufal, qu'on connaît bien.
Boufal a fait plus de football en première mi-temps que toute l'équipe d'Espagne en 120 minutes.
David Lortolari, pour conclure sur le Maroc.
Ben moi, j'ai deux petites réserves. La première concerne le parcours de l'Espagne, c'est-à-dire que le Maroc s'impose. Super match plein, magnifique, belle ambiance, belle âme. D'ailleurs, on aurait pu rajouter plein de villes françaises à celles que vous avez citées, Annie, en début d'émission, parce que même à Montbéliard, où j'étais il y a quelques jours, c'était la folie pour le Maroc. L'Espagne a fait exploser le Costa Rica. Puis derrière, il y a eu quoi ? Il y a eu une défaite contre le Japon, il y a eu un match compliqué contre l'Allemagne. Et là, l'Espagne, en 2 heures, plus les tirs au but, ne marque pas un but. Évidemment, c'est en raison de la performance défensive du Maroc et du match plein que les Marocains ont réalisé, mais j'ai une petite réserve sur la performance de cette Coupe du Monde de la part de l'Espagne. Et deuxième chose, pour ce qui concerne le Maroc, j'ai peur quand même si c'est toute proportion gardée, on ne peut pas comparer deux matchs, etc. La Suisse, dont on va dire peut-être un mot, avait disputé sa finale en fait contre la Serbie, un adversaire pour plein de raisons géopolitiques qui lui avait happé énormément d'énergie et d'influx, et elle a disparu aujourd'hui. Le Maroc a disputé peut-être un match mentalement hyper important contre l'Espagne, qui est un ennemi géopolitique, qui est un rival. Et peut-être que ce Maroc-là, contre le Portugal qui arrive dans quelques jours, sera un peu vidé aussi, c'est ma crainte.
C'est d'autres voisins.
Sur ce match-là, et moi le premier, je pensais que la Suisse serait une opposition nettement plus compliquée pour le Portugal, et ça avait l'air d'être l'avis de beaucoup de gens. Alors, je ne dis pas que la Suisse est arrivée en se disant qu'ils allaient se qualifier, mais peut-être que leur rapport de force entre la Suisse et le Portugal était quand même un chouille plus équilibré qu'entre le Maroc et l'Espagne, a priori. Et peut-être que les Suisses se sont perdus comme ça, et peut-être que les Marocains se sont qualifiés comme ça. Il faut voir un truc, c'est que le Maroc ne sera plus jamais favori contre qui que ce soit dans cette compétition. Ça aussi, c'est une force. Et tout à l'heure, notre camarade Hicham parlait de la Coupe du Monde 2018. C'était entre guillemets une revanche, même si j'aime pas ça dans le football, face à l'Espagne par rapport à ce qui s'était passé en poule en 2018. Ça le sera aussi contre le Maroc. C'est un facteur important à prendre en compte. Ça change pas. Ça ne fait pas un match. Ça ne change pas la qualité des uns et des autres. Mais ça peut rentrer aussi en ligne de compte.
Oui, en tout cas, l'Espagne, on s'était moqué des Japonais, Xavier Barré, qui avaient raté leur séance de tir au but. Là, l'Espagne, surprenamment, l'a complètement raté aussi.
Oui, c'est assez incroyable de voir des techniciens comme Sarabia, comme Busquets. Sergio Busquets,
Soler.
Carlos Soler, deux joueurs du Paris Saint-Germain d'ailleurs, qui ont manqué ces tirs au but.
Alors
qu'Hakimi l'a pas raté.
aucun, effectivement, ne l'a marqué. Donc, ça évite aussi qu'on tombe sur un responsable, puisque c'est une faillite collective à ce niveau-là. peut-être la fatigue d'avoir essayé pendant 120 minutes d'aller de l'avant, de marquer, de passer beaucoup de temps dans le camp adverse en se heurtant à un véritable mur marocain. Alors c'est valable pour Sergio Busquets, ça l'est moins pour Sarabia puisqu'il est rentré en toute fin de match justement pour la séance de tir au but. Donc ça c'est quand même
un excès. C'est lui qui l'a ouverte.
C'est lui qui l'ouvre et qui il tire sur le poteau. Mm. Oui, c'est assez incompréhensible cette faillite espagnole. Maintenant on savait que la victoire en ouverture contre le Costa Rica avait été un peu en trompe-l'œil parce que c'est vrai que tout s'était bien goupillé. Après ça a fait un score fleuve 7-0, mais on a vu derrière contre l'Allemagne qu'ils avaient eu du mal à garder l'avantage puisqu'ils menaient. Et puis ensuite, contre le Japon, ils se sont fait surprendre aussi. Donc, ils étaient prévenus, je pense, contre cette équipe marocaine qui redoutait et qui était effectivement redoutable. Maintenant, ils n'ont pas su forcer la décision. Ils ont eu assez peu d'occasions. Il y a eu des changements offensifs, mais qui n'ont pas apporté ce que Luis Enrique espérait.
En tout cas, Bounou, c'est vrai, aura été un personnage essentiel de cette séance de tir au but. Il en a arrêté, il n'y a pas eu que le poteau. L'autre match de la soirée, c'était entre le Portugal et la Suisse.
Avec Guerreiro, João Félix, Ramos, le tir à gauche, 1-0, oh là là, premier poteau, 1-0 Ramos.
Ah, ça boulet de canon.
Et la tête de Pepe, 2-0. Oh là 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 là, mais comme c'est facile. 2-0 pour les Portugais, il n'y a rien à dire, c'est mille fois mérité. Le centre de Dalot à terre, et 3-0. Et le 3-0, ouais, 4-0. 4-0 pour le Portugal, Rafael Guerreiro. Ça devient la correction. Et le premier but de l'équipe de Suisse, c'est Akanji. 4-1 désormais. Et 5-1. Que dire de plus, si ce n'est rien. Léo Dries 16 mètres, tir de Léo. Et c'est 6-1. 6-1 Léo. Ouais, fantastique. C'est vraiment une correction. 6-1, huitième de finale, alors qu'on les cassait un plafond de verre. Et rien cassé du tout.
Ah oui, excellent, alors... les confrères suisses. Très, très bon.
Excellent. Hein. Et le score très, très en défaveur de la Suisse n'avait pas l'air de le désespérer outre mesure. Il
restait, au bout d'un moment, vous arrivez à retomber sur terre.
Oui, carrément. En tout cas, ce score sans appel, on a vu. Alors, on va parler de la Suisse.
Je peux vous aider, oui, à ce niveau-là.
David Lantolari, mais peut-être. On va parler du Portugal, Xavier Barré. On a vu une très belle équipe du Portugal.
C'est une très belle équipe. Mais je l'avais dit dans l'émission ici avant le début de la Coupe du Monde, pour moi, le handicap de cette équipe portugaise, c'était son avant-centre et capitaine, Cristiano Ronaldo.
C'est par la fin, mais bon.
Oui, non, mais c'est vrai que comme il avait cette volonté de toujours être servi, de capter le jeu, de démonter les ballons, il bridait les autres. Mmh. Et là, aujourd'hui, Fernando Santos a quand même pris une décision extrêmement forte. Il a mis Cristiano sur le banc.
C'était une sanction
c'est
par rapport.
C'est une décision que prennent beaucoup d'entraîneurs ces derniers temps.
Oui, mais il ne l'avait pas fait jusqu'à présent, depuis le début de cette
sanction par rapport à ce qui lui est reproché en sortie de match l'autre fois où il l'aurait plus ou moins insulté, ou est-ce que c'est...
Je pense que c'est une évidence dans le jeu.
C'était par rapport à l'adversaire.
On a vu que Cristiano Ronaldo n'était pas dans le rythme de cette compétition.
Oh, il a failli marquer, il n'a pas rentré longtemps.
Oui, mais il avait eu un pénalty cadeau lors du premier match contre le Ghana où il avait été fantomatique. Lors du deuxième match, c'est Bruno Fernandes qui fait la différence. Après, ils se font piéger par la Corée du Sud. Mm-hmm. Donc, à l'évidence, il n'était pas au rendez-vous. Et donc là, il titularise Gonçalo Ramos, qui est un pur produit du centre de formation de Benfica, un petit jeune qui n'avait encore jamais été titularisé, et qui, bim, marque très vite dans la partie et réussit un triplé pour sa première titularisation avec le Portugal. Ça démontre qu'il y avait du talent. Rafael Leao, qui est rentré aussi, marque également. Donc, on a une génération portugaise bourrée de talent. On a vu ces jeunes, un certain nombre d'entre eux, gagner dans les catégories de jeunes, notamment à l'Euro, en 17 ans ou en 19 ans, ou aller en finale. Et donc, jusqu'à présent, ils étaient bloqués au niveau supérieur parce qu'il y avait Cristiano Ronaldo. Là, Fernando Santos a pris les devants, il les a mis et ça marche.
Je pense qu'il y a
beaucoup. Cristiano était à la cause des mots du Portugal, Naïm.
Il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir un problème à 850 buts en carrière, je vous le dis. Hein, plus de 100 en sélection, faut pas oublier qu'il leur a
118 en sélection.
Faut quand même pas oublier qu'il leur a rendu beaucoup de services en éliminatoire. Je suis pas sûr que le Portugais soit
un joueur exemplaire
qualifié sur les dernières compétitions s'il l'avait pas eu. Moi, que Cristiano quitte le 11 de départ parce qu'il y a une génération, pas de souci. Maintenant, il y a pas mal de matchs qu'il a raté où il a été remplaçant ou alors il a débuté, il est sorti tôt sur les derniers matchs du Portugal où le Portugal n'a pas joué comme ça. Et c'est, moi, c'est ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est que c'est un match référence du Portugal en dépit de ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, parce que finalement, surtout sur la première mi-temps, même si la deuxième, je pense que la Suisse a complètement lâché, mais sur la première mi-temps, ce que le Portugal fait, moi, je ne l'ai pas vu.
C'est 4-0,
ils l'ont pas vu.
Ils l'ont fait contre le Nigeria en amical avant la Coupe du Monde.
Un match amical avec
Cristiano Ronaldo. Non, mais Naïm, c'est révélateur.
Je te parle en match officiel. Ce que le Portugal a fait aujourd'hui, il ne l'a pas fait depuis plusieurs années.
Des matchs officiels sans Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas eu depuis 2004.
Oui, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo a toujours été un problème puisqu'il a marqué 118 buts avec le Portugal. Ça a toujours été un problème.
Je croirais avoir Rémy Ngono en face de moi qui sort des statistiques qui remontent à 2004.
Mais on peut essayer de comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand le Portugal joue sans Cristiano Ronaldo, ces derniers temps,
c'est d'ailleurs pour ça qu'il a marqué contre le Ghana, et s'il en met un en demi-finale et qu'il vous qualifie, vous
direz plus rien. Il marque contre le Ghana, tu auras pénalty cadeau.
N'ayez pas les pénalty, il faut les marquer, puisqu'il y en a trois qui l'ont raté aujourd'hui, les Espagnols.
Donc il faut arrêter de critiquer. Ce qu'on a vu aujourd'hui peut-être du Portugal, ce sont d'autres joueurs.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte, s'il vous plaît. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et de l'ingratitude sur ce que Cristiano Ronaldo a amené au Portugal et au football en général. Mm-hmm. S'il vous plaît.
Bon, David
C'était un événement. Non, mais les deux ont raison de se chauffer parce que c'était un événement. Avez-vous vu les dizaines de photographes qu'il y avait juste avant le coup d'envoi devant le banc de touche? C'est l'une des photos qui circulent là ce soir sur les réseaux. Des dizaines de photographes devant le banc de touche. C'est un événement quand même que Cristiano soit remplaçant. Et je pense que Xavier a raison sur le fait que ce soit malgré tout un événement qu'un monument comme ça soit sur le banc au départ d'un match éliminatoire. Le sélectionneur allemand n'a pas eu le courage de mettre Thomas Müller sur le banc, par exemple. Derrière, vous avez quand même, je veux rappeler, pour éviter l'enflammade portugaise aussi, que Murat Yakin, que par ailleurs j'apprécie beaucoup, le sélectionneur suisse, s'est trompé ce soir. Il pourrait y avoir peut-être une faiblesse portugaise relative, même si Naïm l'adore, sur la défense centrale du Portugal. Pep, ce soir, n'a pas été sollicité, très peu.
Il a Mbolo marqué un était but, seul. En tout cas.
le sélectionneur suisse aurait pu, peut-être, avoir un peu plus de courage que contre le Brésil, où il manquait assez peu de choses, finalement, pour que la Suisse vienne gêner ce Brésil, vienne peut-être faire un match nul, voire s'imposer. Il y a eu une défaite 1-0, et on a critiqué, vu de Suisse, un petit peu ce manque de courage-là. Je l'ai retrouvé ce soir, ça peut paraître un peu dur comme jugement. On aurait aimé peut-être un Okafor, très rapide, qui aurait pu gêner la défense portugaise. Il n'est pas apparu, sauf peut-être très tard, j'ai même pas vu les derniers changements. C'est peut-être un peu dommage de manquer de ce courage-là pour la Suisse. On la connaît un peu timide à ce niveau de la compétition, le confrère de la télé parlait de plafond de verre. C'est un peu dommage de manquer de ce courage-là.
Le truc qui est bizarre avec la Suisse, c'est que pendant l'Euro et même sur certains matchs des éliminatoires ou en Ligue des Nations, ils jouaient des fois avec deux attaquants. C'est-à-dire qu'ils pouvaient jouer avec Mbolo, mais ils pouvaient mettre Seferovic, ils pouvaient mettre d'autres attaquants. Et là, depuis le début de la Coupe du Monde, ils jouaient un 4-2-3-1. Il n'y a qu'une seule pointe, c'est Mbolo. Alors Mbolo fait une bonne Coupe du Monde. Marqué en poule.
Mais ça fait très débat au pays, je vous le dis.
Mais c'est curieux qu'il ait changé ça. Parce que finalement, alors je dis pas que la Suisse aurait été très loin dans la compétition, mais les voir éliminer 6-1 en 8e, il y a évidemment un niveau d'écart.
Ils jouent avec des milieux excentrés très offensifs, notamment Vargas.
Vargas, c'est vrai.
Et puis là, aujourd'hui, il était privé de Widmer, le latéral droit, qui monte aussi beaucoup et qui a fait effectuer beaucoup de centres. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui donne le but de la victoire à Mbolo contre le Cameroun. Donc c'est sûr que cette équipe, elle est un peu déçue aujourd'hui, mais elle a été quand même très vite noyée par la qualité du jeu portugais.
Ce qui est sur les 15 premières minutes, la Suisse est dans le camp du Portugal, ça joue, c'est pas mal. Je pense que le premier but qui est exceptionnel de Gonzalo Ramos, il leur a mis un coup derrière la carafe, derrière ils se sont éteints.
Un but à la Giroud, non?
Non mais c'est terrible en fait, c'est terrible.
Mais oui,
ils ont explosé complètement.
Allez, on continue dans Radio Foot International. On a donc, je vous le rappelle, cette affiche qui sera Maroc-Portugal pour le quart de finale et ça sera samedi après-midi avant celui de la France et de l'Angleterre. Ce sont des images qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, comme on dit, durant toute la matinée. Celle où l'on voit le président de la FECA Foot frapper un homme à terre, malgré les bras qui l'entourent et qui ont essayé de le retenir. C'était après le quart de finale Brésil-Corée du Sud, mais après une défaite du Cameroun. C'était avant le huitième de finale, pardon. Un geste violent et impardonnable, quelle qu'en soit la raison, qui a incité Samuel Eto'o à écrire ensuite une lettre d'excuse au public, excuse au public et pas à d'autres personnes. Apparemment, celui qui s'en est pris, qui l'a fait sortir de ses gonds, c'est un YouTuber algérien qui l'aurait provoqué au sujet de la qualification toujours du Cameroun aux dépens de l'Algérie. Alors dans sa lettre, il regrette profondément d'avoir perdu son sang-froid. Il parle d'un incident regrettable. Il dit aussi que le scénario de l'élimination de l'Algérie fut certes cruel, mais conforme aux règles et que toutes les voies de recours introduites par la Fédération algérienne ont été rejetées. Que faut-il penser de ce geste et des conséquences, David Lortolari ?
C'est pas pour lancer des fleurs aux confrères, mais j'écoutais justement RFI plutôt dans la journée sur le factuel de, mm-hmm. de cet événement-là.
Aucune excuse.
Oui, aucune excuse. Alors après, il y a des choses qui sont dites, peut-être qui font une étincelle. Le problème, c'est les responsabilités de Samuel Eto'o, c'est le côté modèle, exemple que devrait avoir une personnalité comme ça. Ce sont des événements malheureux. Est-ce que ça n'est pas malgré tout, Annie, sans faire de déterminisme, une espèce d'engrenage qui fait qu'on en arrive là avec un Cameroun qui n'a pas correspondu à ce qu'il aurait rêvé. Ce ne sont pas des excuses, hein, simplement une tentative de comprendre un petit peu comment on peut en arriver là. Ouais, c'est impardonnable, c'est sûr. Après, il y a peut-être deux, trois angles morts, deux, trois petites choses qui auraient pu être dites qu'on ne sait pas et qui font que... Oui, j'ai du mal à accepter, à comprendre qu'on en arrive là. En
enfin,
cas.
Un geste par rapport à quelqu'un qui est au sol et qu'on frappe.
Alors, Annie, j'encourage pas la violence. Hein, jamais, peu importe le contexte. Maintenant,
et le motif.
Le motif. Ce YouTuber-là, ça fait quand même un petit moment qu'il cherche la bagarre. C'est pas la première fois qu'il s'en prend à Samuel Eto'o.
Enfin,
pas la première
là, il avait
fois
une caméra, pour chercher la bagarre.
Non, mais vous savez ce qui s'est dit ou pas entre eux?
Non.
Donc vous pouvez pas savoir
non,
si ça se trouve, il a cherché
importe,
la bagarre.
Naïm,
bah
je
non, il n'y a pas de peu importe. Il y a aussi des mots et des comportements qui parfois vous font sortir de vos gonds, parce que président ou pas, vous êtes un être humain. Bon. Et moi, je me pose quand même une question. Comment ce type-là, qui n'est ni journaliste ni qui que ce soit, se retrouve à avoir accès au président de la Fédération camerounaise?
Comment il était à l'extérieur du stade. C'était pas.
D'accord, donc on peut approcher les. D'accord,
public,
donc on peut approcher les équipes de foot comme ça en période de Coupe du Monde.
Mais c'est pas une équipe de foot, c'était un président.
Le Cameroun, c'est pas une équipe de foot ?
Non, mais il n'y avait que Samuel Eto'o qui sortait d'un match Brésil-Corée du Sud. C'était pas le match
du
Cameroun.
Oui, mais même, comment est-ce que ce mec-là peut approcher Samuel Eto'o comme ça ?
Il y avait des gardes du corps, ceux qui ont essayé.
Moi, je trouve qu'on va évidemment s'attarder sur le geste parce que c'est ce qui fait le tour de la toile et on va dire « Oh, le pauvre, il l'a tapé », puis machin. Il faut à un moment donné, vous savez, je vais vous dire un truc.
Non, mais l'autre, attention, se met en scène et c'est un YouTuber, je suis d'accord. Mais quand même.
Je vous le dis en étant d'origine algérienne.
En tout cas,
je vous le dis en étant d'origine algérienne. Il va falloir que l'Algérie, si elle veut être un grand pays de football, apprenne à perdre. La défaite, je peux comprendre que les mecs l'aient en travers de la gorge compte tenu du scénario. Maintenant, aller manifester devant le siège de la FIFA pour rejouer le match ou aller insulter c'est le sûr. Président de la Fédération camerounaise, c'est débile.
Et d'ailleurs,
débile,
c'est
débile.
Pire que ça, là,
et d'ailleurs,
débile.
Xavier, on sait qu'il y a une ambiance délétère. Alors nous, on a rencontré des supporters qui étaient avec des maillots algériens et qui disaient on est là pour soutenir les équipes africaines. Et notamment, ce jour-là, c'était pour Cameroun-Suisse. Mais c'est vrai qu'il dit, je demande aux autorités algérienne, hein, Samuel Eto'o, et à la Fédération Sœur d'Algérie de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère. On se souvient des mots maladroits de Belmadi à un moment qui s'en était pris à l'arbitre et tout. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce malaise a été entretenu quand même.
Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Naïm Moniol sur ce sujet-là. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il y a des espèces d'influenceurs qui essayent de se faire qui cherchent le buzz, qui cherchent à faire un coup médiatique, pour avoir des likes, pour avoir des followers, pour avoir des machins. Ouais, ouais. Donc ils s'en prennent à à des personnalités, ils s'en prennent à des célébrités. Et effectivement, on peut s'étonner que Samuel Eto'o, du coup, devienne si facilement accessible. Après, ces mêmes personnes vont se plaindre que les hommes, qui ont les hommes ou les femmes, qui ont des responsabilités, des hautes responsabilités, se blindent, se protègent dans leur tour d'ivoire. Mmh. Mais si c'est pour être à chaque coin de rue, effectivement, dérangé par des personnes en quête de sensationnalisme, eh ben, inévitablement, ils sont obligés de se protéger. Mmh. Donc moi, je ne connais pas bien tous les détails de cette affaire.
Non, on ne les connaît pas, c'est vrai. Voilà,
Rejoins tout à fait Naïm Moniol sur ce point-là. Mmh.
Non, mais bon, en tout cas, on ne peut pas quand même excuser un geste aussi violent, quel que soit le contexte. Mais on va l'entendre, ce supporter algérien qu'avait rencontré David Finzel lorsque nous étions à ce match Cameroun-Suisse.
Africa, Africa. Vous êtes un supporter algérien et vous êtes venu encourager le Cameroun ?
L'Afrique.
Oui, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
On est des Africains.
On est des Africains, merci.
C'est le football.
Merci, mon frère. Si on a des équipes africaines qui progressent, on nous donnera plus d'équipes.
Vive l'Afrique, alors.
Yes, merci, l'Afrique. Vive l'Afrique. We love Africa.
Merci.
Voilà, des supporters panafricains qui, au moins, quelle que soit l'équipe de cœur, disons, eh bien, étaient là pour faire la fête. Allez, on continue parce qu'eux, ils ont fait la fête, justement.
Alors, on danse. Alors, on danse. Alors, on danse. Alors, on danse. Alors, on danse.
Ils ont dansé, les Brésiliens, pour commémorer chacun de leurs 4 buts hier contre la Corée du Sud. Ils avaient aussi dansé quand ils ont marqué contre la Serbie ou la Suisse. Mais bizarrement, la commémoration brésilienne a été critiquée, comme si les joueurs de la Seleção avaient voulu se moquer de leurs adversaires. En tout cas, c'est l'analyse de l'anglais Roy Keane, consultant sur une chaîne de Grande-Bretagne. Et dès la fin du match, des questions avaient été posées à l'entraîneur. Xavier, est-ce que ça vous choque, vous ?
L'analyse de Roy Keane, oui. Parce que Roy Keane qui vient donner des leçons. Oui, lui qui avait cassé la jambe du père de Haaland, de Erling Haaland, dans Golfinger Haaland, et qui a mis un terme à sa carrière. Lui qui vient donner des leçons, qui a été ensuite un sélectionneur à résultat mitigé de l'Irlande, et qui maintenant se pavane sur les plateaux. Oui, non, ça me choque. Oui.
Bon, mais alors dites-moi, de voir danser les Brésiliens quand ils marquaient des buts.
Ils l'ont toujours fait. En plus, ça viendrait des Coréens qui se sentiraient humiliés, on pourrait comprendre. Mais là, qu'est-ce que vient faire Keane sur ce sujet-là ? J'avoue, j'ai du mal à suivre.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au Brésil, où évidemment on a suivi le match Brésil-Corée du Sud avec beaucoup d'intensité et de ferveur, il y a l'ambassadeur de Corée du Sud qui avait promis à la fin du match, quel que soit le résultat, de chanter. Et il a chanté une chanson de ces certains Joe, comme on dit, là, ces gens du folklore country du Brésil, et il a chanté en portugais.
Il a country au Brésil.
et on a qui vend des millions de disques d'ailleurs. Naïm, je vous éduquerai sur ça. Et ce qui est amusant, c'est que l'ambassadeur n'avait pas du tout l'air chagrin d'avoir vu les Brésiliens. Alors sur le terrain fêter ça, mais en plus ailleurs. Et alors on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, David Lortolari. On en a vu des justement aujourd'hui bout à bout sur les réseaux sociaux, des joueurs qui dansaient à chaque... Alors, il y avait des Colombiens avec James à l'époque, et je crois que c'était la Coupe du Monde du Brésil. Les Sénégalais, évidemment, Bouba Diop, quand ils avaient marqué contre la France, les Sud-Africains, les Ivoiriens. Et
Roger
bien
Mila,
sûr aussi.
Bien sûr.
Et puis d'autres Brésiliens à l'époque de Ronaldo et Ronaldinho.
J'ai souvenir, alors je crois que c'est 1994, mais peut-être même est-ce la Coupe du Monde d'avant. Je crois que c'est 94, Romario Bebeto, qui font le geste du bébé, parce que l'un d'entre eux
avait eu un bébé.
Juste d'avoir un enfant.
Mm-hmm. C'était contre les Pays-Bas, si je ne me trompe pas.
Ils l'ont fait plusieurs fois.
Et c'était en 94,
Mais
ils ont eu plusieurs bébés.
On comprenait très vite que c'était une célébration, montrer un plaisir personnel, un plaisir intimiste pour le public. Et c'est une image qui m'est restée. Néanmoins, sans vouloir jouer les pisse froids, je préfère les célébrations de Thomas Müller qui lève le doigt simplement en disant « j'ai marqué un but ». C'est arrivé encore récemment. Je préfère les célébrations plus soft. Mais je ne vois pas comment on peut reprocher aux joueurs d'être dans l'euphorie du moment. Et c'est difficile.
Si on en vient à reprocher au mec de danser parce qu'il marque un but en Coupe du Monde, il faut arrêter le football, quoi. Après, qu'on leur foute la paix.
Après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une grande surveillance de ce genre de manifestation d'après-but.
Mais il n'y a rien fait aussi.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais je dis qu'il y a eu justement, il y a une grande surveillance des manifestations d'après-but parce qu'on s'est rendu compte, notamment dans le contexte explosif du Moyen-Orient actuellement, que c'était un moyen de passer des messages. On l'a vu avec les Iraniens qui étaient obligés de fredonner l'hymne national pour pas que leur famille soit inquiétée. On l'a vu lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, lors du fameux Suisse-Serbie, puisqu'ils étaient déjà face à face. Ouais. Et les deux joueurs suisses d'origine kosovare, en l'occurrence Chaka et Shaqiri. Shaqiri avait marqué, il avait ensuite mimé avec ses mains l'aigle albanais, donc suite au conflit qui a eu lieu entre les Albanais du Kosovo. Oui, en commémorant un but. Et ils ont été sanctionnés pour ça. Ils ont eu une amende. Et donc là, quand il a marqué cette fois-ci contre cette même Serbie, il a montré son maillot et son nom. Il n'a pas manifesté de cette façon-là. Donc on sait qu'il y a une grande surveillance de la FIFA d'ailleurs et depuis de nombreuses années sur la façon de fêter les buts. J'ai pas vu moi dans la démonstration brésilienne quelque chose de choquant, mais peut-être que certaines personnes pourraient interpréter.
Pour tout savoir, ça s'appelle la danse do pombo. C'est un genre de rap, donc c'est la danse du pigeon. et c'est ce que fait effectivement Tite et d'ailleurs Ronaldo après le match quand il l'a reçu. Dans un studio, elle lui a dit « Est-ce que tu peux m'enseigner à danser comme ta danse du pigeon ?» Et du coup, on voit Richarlison enseigner à Ronaldo comment ils font. Alors, c'est vrai que Tite lui a dit « On essaye de s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes. J'essaie de m'adapter à leur langue. Une partie de leur langage est la danse. Et c'est pour ça que j'ai dansé, moi aussi, quelques secondes avec eux sur le bord du terrain. »
Tant mieux d'avoir un sélectionneur qui s'adapte à ces jeunes joueurs. Après, on dit qu'il y a des gaps générationnels qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, tant mieux. Mais si on ne voit pas ça en Coupe du Monde, il faut arrêter. Ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en fait, cette histoire a pris de l'importance encore une fois à cause des réseaux sociaux. Parce que ça fait une caisse de résonance énorme et que tu ne peux plus rien faire et que tout devient tout de suite scruté, critiqué, machin. C'est-à-dire que si demain, on a décidé que le passement de jambe était une humiliation pour le pays d'en face, on va l'interdire dans le football. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? J'exagère un peu, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre.
Naïm,
il faut arrêter ces trucs-là.
C'est parfois perçu comme de la provocation.
Oui, alors, Naïm, vous vous souvenez peut-être que là, après tout, c'était peut-être pas une commémoration ultra élégante. C'était celle de Cavani qui faisait semblant de surnommait le Matador. Voilà, on se souvient. Mais en tout cas, il avait été sanctionné par un arbitre et du coup, ça a disparu.
Je vais pas faire l'ancien combattant quoi que ce soit parce que je pense être le plus jeune autour de la table. Je pense que c'est la vérité. C'est des trucs, on n'en aurait même pas parlé il y a 15 ans.
Non, on n'en aurait même pas parlé
il y a 15 ans. Tout le monde s'en serait moqué complètement. Il y a des célébrations dans d'autres sports, dans les sports US où les types miment des trucs nettement plus dangereux ou qui peuvent faire référence à des trucs beaucoup plus importants dans le baseball, dans le foot américain que dans le football actuel. Qu'on foute la paix aux footballeurs, on ne sait plus quoi inventer pour leur taper dessus, ça m'énerve. Qu'on leur foute la paix.
Qui danse, non. David Lantolari.
Bon, après c'est vrai, Xavier n'a pas tort sur le fait que ça devient de plus en plus quand même une mini-scène pour faire passer des messages.
Ah oui, mais là, c'était pas du tout ça. Combien de fois on utilise les footballeurs pour qu'ils soient étendards de ceci, de la lutte contre l'homophobie, des véganes, des manteaux de fourrure et des machins à ce moment-là, qu'on leur foute la paix aux mecs. Hein.
Oui, mais c'est pas tout. Sur le terrain, c'est pas dans le cadre d'un match.
Si, c'est dans le cadre du terrain, excusez-moi, quand on leur met des brassards et des lacets et des maillots arc-en-ciel, c'est sur le terrain. Excusez-moi.
En tout cas, il va falloir se préparer. Parce que Rafinha, qui est l'un des attaquants et qui lui aussi aime bien danser,
il
avait
la
prévenu.
Danse de la cigogne.
Eh bien, il. Je sais pas sur la cigogne, mais il a dit nous avons préparé 10 danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse pour le premier but, une autre pour le deuxième, une autre pour le troisième. Donc ça risque.
Oui, mais c'est pas étonnant. Moi, je vois dans les écoles de football, là où est mon petit dernier, il s'amuse à leur dire bon, bah, vous mimez ce que vous allez faire quand vous marquez un but. Bon, moi, je trouve qu'il y a un côté. Il y a un côté plutôt sympa dans cette démonstration-là.
Plutôt motivant,
Après,
les enfants imitent aussi les autres. On voit la signature de Mbappé. À un moment, c'est comme une signature de son but. Celle de Mbappé fut un certain temps.
Maintenant, il a changé d'ailleurs. Cristiano Ronaldo, qui saute et qui ouvre ses bras vers le bas, c'est aussi quelque chose qu'aiment bien faire les enfants. Franchement, moi, je ne vois pas matière à m'indigner comme Roy Keane. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a certaines situations, certains gestes qui peuvent être l'objet de messages à polémique, donc il vaut mieux les éviter.
Eh bien voilà, c'est la fin de ce Radio Foot International avec, eh bien, nous l'avons largement salué, la victoire du Maroc aujourd'hui dans cette Coupe du Monde qui sera
au foot
en quart de finale.
Maintenant, vous allez initier Naïm Moniol à la country brésilienne. Alors.
Il y aura des vidéos, on mettra des vidéos sur Facebook, hein, vous inquiétez pas. Hein.
Ça sera donc Maroc-Portugal samedi après-midi et ça sera juste avant France-Angleterre. C'est la fin donc de cette émission. Merci messieurs.
Merci Annie.
D'avoir veillé avec nous et avec tous nos auditeurs qu'on espère chaque jour et chaque soir très nombreux. Merci à tous et on se donne rendez-vous demain à 15h10 en temps universel, 16h10 heure de Paris.